Vous êtes bien sur Mizen TV, très heureux de vous proposer un nouvel entretien exclusif enregistré ce 12 décembre dans les locaux de la Grande Mosquée de Paris, puisque nous sommes reçus aujourd'hui par le recteur Shemseddine Hafiz. Bonjour monsieur le recteur.
Bonjour.
Salam alaikum. Merci de nous accueillir dans ce lieu emblématique de l'islam parisien pour un entretien qui sera largement consacré aux questions de l'actualité en France et au Proche-Orient. Une actualité qui a été dominée ces dernières semaines par la marche contre l'antisémitisme, par des accusations graves d'antisémitisme portées contre la communauté musulmane française, par un climat de tension intercommunautaire souvent entretenu par la peur et la calomnie, nous aurons l'occasion d'y revenir, par une montée également des violences et des injures anti-musulmanes, symptômes d'une France déchirée par la fièvre identitaire, mais aussi bien évidemment par les répercussions de la tragédie palestinienne en France. Dans ce flot d'actualité, un thème ou un dénominateur commun semble revenir comme un leitmotiv permanent, celui des relations judéo-musulmanes françaises. Je commencerai donc par là, monsieur le recteur. Comment définiriez-vous cette relation judéo-musulmane en France?
Écoutez, d'abord, au-delà de la France, la relation judéo-musulmane, ce sont deux confessions, deux religions monothéistes qui font partie de la matrice abrahamique en y ajoutant le christianisme. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, il ne peut pas y avoir un antisémitisme musulman basé sur notre livre sacré, le Coran, les hadiths, nos écoles juridiques. À aucun moment, vous ne trouverez trace d'un appel à un antisémitisme musulman sur le plan confessionnel. Donc, je m'arrêterai à cela. Nous sommes des citoyens bercés par une laïcité qui devrait en principe nous réunir et non pas nous désunir. Et c'est sur cet objectif que je base mes actions en disant que nous sommes d'abord citoyens, que notre confession ne peut pas être, antagoniste avec celle des Juifs, et qu'à ce titre-là, nous devons tous travailler ensemble pour que les conflits qui pourraient exister à travers le monde, et notamment ce qui se passe au Proche-Orient, ne devraient pas en principe impacter cette citoyenneté.
Alors précisément, monsieur le recteur, est-ce que comment vous qualifiez la qualité de cette relation judéo-musulmane? Est-ce que la tragédie qui se passe actuellement en Palestine et notamment à Gaza a impacté d'une manière ou d'une autre la relation des instances du culte musulman avec celle du culte juif? Vous-même être en contact avec différentes personnalités confessionnelles juives, donc rabbins ou représentants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette relation aujourd'hui?
Il y a bien évidemment une crispation. Mais moi, de mon côté, j'ai essayé à chaque occasion que j'ai pu faire des déclarations en disant qu'on ne pouvait pas être face à face. Ce n'est pas normal. Maintenant, il y a une réalité, il y a effectivement un moment d'émotion très fort depuis le 7 octobre qu'il faut essayer en tant que responsable de gérer. Alors moi, je pars sur des principes islamiques où il y a dans un certain nombre de versets coraniques le fait que chacun, en tant qu'individu, assume ses responsabilités. On ne peut pas dire à quelqu'un « c'est à cause de ton frère que toi tu vas payer pour lui ». Donc ce qui se passe là-bas au Proche-Orient ne doit pas, en principe, nous impacter. L'imam de la Grande Mosquée de Paris, lorsqu'il fait son prêche, le rappelle en permanence, en disant d'abord et avant tout que lors d'un conflit armé, il est recommandé par, à la fois notre livre saint, mais en même temps ce qu'a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier calife Abu Bakr al-Siddiq, qui rappelait quand même qu'il ne fallait surtout pas toucher à un civil dans les commandements, les 10 commandements du premier calife Abu Bakr al-Siddiq, qui dit qu'il ne faut même pas toucher un arbre. Imaginez une personne innocente qui n'a rien à voir dans ce conflit armé. Donc si vous voulez, avant même les conventions de Genève, l'islam était extrêmement strict sur ces notions. Rappelez-vous quand même que lorsque des prisonniers étaient arrêtés pendant les grandes guerres que nous avons connues, les grandes batailles de l'époque, un prisonnier, quand il était arrêté, on cherchait d'abord à l'instruire. Celui qui ne savait pas lire et écrire, d'autres prisonniers se chargeaient de... C'est en fait, à travers tout cela, c'est la valeur humaine. Et donc moi, sur cette base, j'ai en permanence déclaré que les musulmans ne pouvaient pas être opposés aux juifs de France, parce que ce n'est pas notre ADN. Donc je l'ai dit, j'ai même dit que l'antisémitisme ne pouvait pas passer par les mosquées et qu'il était anormal qu'un musulman soit antisémite. Moi, j'ai fait ma part. Après, mes interlocuteurs, notamment du culte israélite, vous savez bien qu'il y a un rabbin qui est devenu entre-temps grand rabbin, qui a démissionné d'une commission que j'avais mise en place, je pourrais en parler.
J'allais y revenir, mais oui, vous pouvez en parler.
Mais si vous voulez, aujourd'hui, je vous dis, on est sous le coup de l'émotion, et bien évidemment, il ne faut pas prendre au temps T une position, un énervement, une déclaration. Il faut laisser le temps au temps. Ce qui, aujourd'hui, rend difficile la tâche, c'est les bombardements massifs qui, encore aujourd'hui, malgré une condamnation internationale unanime, nous voyons qu'il y a encore des civils palestiniens qui sont en train de mourir sous un feu de bombes comme on n'en a jamais vu depuis toutes les guerres modernes. On n'a jamais vu une surface aussi petite être bombardée de la sorte. Donc c'est extrêmement grave ce qui se passe. Il faut absolument aujourd'hui qu'on puisse à la fois profiter d'une trêve et pourquoi pas d'un cessez-le-feu. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a demandé à plusieurs reprises, ce cessez-le-feu. Il faut que nous, de notre côté, nous puissions insister pour que, enfin, les enfants Gazaouis ne soient pas obligés de vivre cette terreur, parce que il faut y réfléchir et se dire, ce qui se passe là-bas à Gaza est en train de remettre en cause tout l'avenir de cette région pendant 30 ans, 40 ans. Parce que l'enfant qui a 4, 5, 6 ans, 10 ans, c'est quelqu'un qui va être mu par une haine incroyable. Parce qu'il y a une injustice, parce qu'il y a une violence, il y a une guerre, et nous connaissons souvent les traumatismes d'une guerre qui peut, par la suite, créer et alimenter une haine qui devrait, en principe, être jugulé, voire canalisé pour arriver à une paix que nous appelons de nos voeux depuis le début de ce conflit du 7 octobre.
Alors justement, Monsieur le Recteur, concernant ce qui se passe actuellement en Palestine, vous avez rappelé le caractère tragique, beaucoup de morts, au moins 20 000 morts, beaucoup d'enfants tués, toute une population déplacée. Un véritable génocide dénoncent les organisations humanitaires. Pour résumer, une terrifiante impuissance ressentie face à une impunité. Quelle doit être, selon vous, la réaction des hommes de foi et de spiritualité face à ces crimes qui se passent encore aujourd'hui et dont on ne voit toujours pas la fin.
Alors là aussi, je me baserai sur des préceptes coraniques. Que pouvons-nous faire, nous, hommes de foi, à part accepter l'épreuve, être patient? C'est ce que on nous rappelle régulièrement, d'être patient, de faire des prières. On n'a pas grand-chose entre nos mains aujourd'hui, hommes de foi. Mais en tout état de cause, nous ne pouvons pas accepter en tant qu'hommes de foi, pas uniquement musulmans, mais tous les autres cultes. Moi, j'ai appelé tous les autres cultes de France à dire que les armes doivent se taire, essayer de trouver par le dialogue une issue. J'ai proposé, je l'ai écrit, je l'ai déclaré, qu'il fallait tout de suite déclarer la création d'un État palestinien. C'est pas la peine d'attendre une nouvelle conférence. On a vu les conférences d'Oslo, etc., ce que ça a donné. Il faut aujourd'hui que les grandes puissances... Moi, j'avais proposé qu'avant la fin de l'année, c'est peut-être utopique, mais je l'ai dit qu'il fallait absolument qu'on déclare la création d'un État palestinien tout de suite. Et après, commencer à faire le contour d'un État viable, fiable, sécuritaire, terre, etc. Mais si on ne dit rien maintenant et que dans 6 mois, il y a une organisation autour d'un sujet qui est la création d'un État palestinien, etc., on est parti encore pour 10 ans. On a vu que, à la fois les accords de Camp David, que les accords d'Oslo n'ont abouti à absolument rien. Alors, à qui la faute? Chacun se la rejette. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut être pragmatique. Et cette terrible situation qui a démarré le 7 octobre, il faut aujourd'hui lui trouver une issue fiable, et tout le monde le reconnaît. Le président de la République, Emmanuel Macron, a dit qu'il fallait la coexistence au Proche-Orient de deux États. Et quand on parle de deux États, c'est-à-dire la définition d'un État moderne, et pas comme aujourd'hui, vous avez un bout de terre qui serait sous l'autorité palestinienne, un autre bout de terre à 10 km. C'est pas viable aujourd'hui. Et donc, il faut véritablement créer un État palestinien aux côtés d'un État israélien. Aujourd'hui, je ne pense pas que quelqu'un pourrait remettre en cause l'existence d'un État israélien. On fait croire que, je dirais, l'existence de l'État d'Israël est en jeu. Moi, je pense que, voilà, la situation est là. Il faut deux États. Il faut que
Malgré la
c'est...
colonisation, pardon, je vous interromps, malgré la colonisation incessante
Mais bien
qui rend
évidemment, aujourd'hui...
impossible finalement ou qui
Mais c'est ce que
repousse
je...
toujours plus
Non, mais c'est
la
ce que je
perspective
dis.
d'un État
C'est
palestinien.
ce que je dis. Aujourd'hui, il faut que ce processus de colonisation s'arrête, qu'on puisse condamner aujourd'hui tout ce qui a été fait au nom de la colonisation. Revenir à une configuration d'un État palestinien viable. Si on reste sur, effectivement, cette colonisation et que cette colonisation soit entérinée par un texte quelconque, ça remet en cause la création de cet État palestinien, puisque tout ce qui a été colonisé pratiquement depuis 67 est illégal. Ça a été dit et redit par les organisations internationales. Donc aujourd'hui, pour ce peuple palestinien qui est en train de souffrir, si véritablement il nous reste, je dirais, une once d'humanité, il faut se pencher sur ce peuple et lui trouver une solution. Vous savez, je suis d'origine algérienne, je suis extrêmement sensible sur la question de la colonisation, puisque l'Algérie a été colonisée pendant 132 ans. Donc nous savons ce que c'est la colonisation, ce qu'est le traumatisme de la colonisation. 70 ans après, on est encore en train de subir, je dirais, ces traumatismes de la colonisation. Et le peuple palestinien a le droit véritable aujourd'hui, pour que cesse cette situation de guerre au Proche-Orient, il faut qu'il y ait un État palestinien. Et encore une fois, j'insiste, un État palestinien selon les règles du droit international, c'est-à-dire un État viable avec des frontières, etc., etc.
Alors, Monsieur le Recteur, vous avez évoqué dans la question précédente voilà, la crispation des relations judéo-musulmanes, donc un rabbin qui la porte d'une commission de dialogue hein, de la Grande Mosquée de Paris, en signe de protestation à votre absence de la marche contre l'antisémitisme. Alors, vous étiez exprimé hein, sur les raisons de cette absence. Et concernant cette marche, on avait aussi constaté la présence donc, de l'extrême droite française hein, qui s'était mobilisé. On avait même pu voir ou entendre plusieurs slogans anti-musulmans hein, durant cette marche. Par ailleurs, on a également lu et beaucoup entendu dans les médias français cette grave accusation, hein, j'en parlais en introduction, d'un antisémitisme musulman être avancé et reprise en boucle sans aucune contradiction. Par exemple, un Dominique Reynier de Fondapol pouvait déclarer sur CNews, je cite, « Plus d'un compatriote musulman sur deux partage les préjugés antisémites et d'autant plus qu'ils vont à la mosquée plus souvent. » Fin de citation. Vous-même, monsieur le recteur, aviez écrit dans une tribune au Monde ces quelques lignes, je cite, « Les musulmans de France subissent des accusations abjectes qui les essentialisent et les rendent tous complices des pires dérives qui ne sont pas les leurs. » Fin de citation. Aussi, ce sera ma question, n'assiste-t-on pas, monsieur le recteur, à une instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme qui semble être devenue aujourd'hui le paravent d'une certaine forme d'islamophobie? Est-ce que vous partagez ce constat?
Non, je ne pense pas, parce que votre question pose le fait qu'on doit s'opposer juifs et musulmans. Il y a un antisémitisme. L'antisémitisme, ce n'est pas, je dirais, nouveau. C'est un antisémitisme profondément ancré dans les terres d'Europe. Moi, je poserai une simple question. Lorsque, en Andalousie, les juifs et les musulmans ont été chassés pourquoi les Juifs sont partis en terre d'islam, n'ont pas choisi de terre européenne. Ils auraient pu, de l'Andalousie, monter vers la France ou aller ailleurs. Ils ont été principalement au Maghreb, en
L'Empire ottoman
Égypte,
aussi.
et l'Empire ottoman qui deviendra par la suite la Turquie actuelle. Pourquoi? Parce qu'ils savent, les Juifs, que lorsqu'ils ont vécu en terre d'islam, ils ont été protégés, eux, physiquement, et leurs biens, et surtout leur culte. On a toujours eu cette précaution de permettre aux Juifs en terre d'islam de pratiquer leurs rites sans aucune contrainte. Donc aujourd'hui, moi, je ne veux pas qu'en France, on nous oppose. Il y a un antisémitisme qui est extrêmement important. Je ne peux pas vous laisser dire que l'antisémitisme, c'est un paravent à quoi que ce soit. Il
Non, je parlais de
existe.
l'instrumentalisation.
Oui,
Pas la lutte contre l'antisémitisme, mais l'instrumentalisation de cette lutte.
moi, vous savez, je suis extrêmement sensible à cette question parce que je comprends également aujourd'hui, et je suis un humaniste, je ne peux pas accepter aujourd'hui qu'on puisse s'attaquer à quelqu'un du fait de son origine, du fait de sa confession et du fait de sa couleur. Et donc les Juifs sont inclus là-dedans. Lorsqu'on s'attaque à un Juif, je trouve qu'il est anormal parce qu'il est Juif. Non. Il y a de l'antisémitisme. Aujourd'hui, dire qu'il n'en existe pas, et ça a explosé depuis le 7 octobre, et je pense que c'est une réalité. Donc, après avoir dit ça, je dis également, et en parallèle à cela, il y a une islamophobie qui a explosé aussi. Alors, bien évidemment, quand on me dit qu'il y a 1700 actes antisémites et qu'il y a 180 et quelques actes anti-musulmans, quand on fait la comparaison, on se dit l'explosion de l'antisémitisme, alors que 180 actes islamophobes, c'est pas très important.
C'est ce qui a été
Par contre,
comptabilisé, hein. C'est pas ce qui
c'est
existe
ce
dans la
que je
réalité.
voudrais dire. Ce que je voudrais dire. D'abord, il y a une donnée qui est l'évidence même, les musulmans ne déposent pas plainte. C'est quelque chose qui est aujourd'hui en nous. Vous êtes attaqué, on va vous traiter de tous les noms, vous continuez votre route et vous rentrez chez vous. Il faudrait peut-être que nous faisions appel à la communauté musulmane pour lorsque de telles dérives se passent, il faut aller, ne serait-ce que prendre une main courante dans un commissariat. Ça, c'est la première des choses. Mais ce qui est le plus grave pour moi, cette islamophobie permanente dans les médias, c'est-à-dire que vous allumez la télévision, vous prenez n'importe quelle chaîne de télévision, il s'agit des musulmans. On essentialise en permanence les musulmans de France en disant qu'ils sont responsables de tout ce qui peut se passer.
C'était le sens de ma question, hein.
Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut absolument condamner, dénoncer vraiment avec toute notre force possible, ne laisser rien passer. C'est ces façons de s'exprimer sur les musulmans. C'est devenu aujourd'hui presque une maladie. C'est-à-dire, il n'y a pas un homme politique, il n'y a pas un journaliste qui, pour dorer son blason, va parler de l'islam et des musulmans. Aujourd'hui, moi, vous voyez sur les réseaux sociaux, je suis extrêmement attaqué, je suis un frère musulman, je pratique la taqiya, il y a des hommes politiques qui considèrent que je suis un spécialiste de la taqiya. Vous imaginez, on a appris des petits concepts,
La
des petits mots
dissimulation
comme
pour
ça,
ceux qui ne connaissent pas
la
sans doute.
dissimulation, parce que moi j'ai réuni des imams et des muftis d'Europe, on a considéré que j'avais réuni ici des islamistes, de tous les islamistes européens. C'est-à-dire que, voilà, on jette à la vindicte populaire, alors que ça fait 2 ans que je travaille sur cette organisation, nous n'avons pas le droit, nous, en tant que musulmans, en France, d'essayer d'avoir des liens avec d'autres mosquées. C'est le but de l'association que j'ai créée, qui s'appelle ML, l'espoir, qui est de réunir les mosquées d'Europe pour qu'on puisse travailler ensemble, pour qu'on puisse éduquer nos enfants à peu près de la même manière. Nous sommes en pays européen, en continent européen, nous avons les mêmes problématiques en tant que musulmans, que nous soyons en Autriche, en Espagne, en Allemagne, en Slovénie, en France, ben, nous voulons travailler ensemble. eh bien, on nous dénie ce droit et on jette l'anathème. Voilà, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, représentant de la confrérie des frères musulmans, a réuni tous les islamistes. C'est abject comme type de comportement, c'est abject. Et donc aujourd'hui, il faut se défendre là-dessus. On ne peut pas nous essentialiser de la sorte. C'est pas parce que je porte une barbe, je suis un islamiste. Dès que je m'exprime, c'est un islamiste. Et vous savez, c'est la meilleure façon d'essayer de vous discréditer. Et depuis le 7 octobre, je crois avoir eu, je dirais peut-être, le prix de celui qui a été le plus attaqué sur ces questions, à la fois sur mon algérianité et sur ma pseudo-relation avec les frères musulmans. C'est indigne, c'est terrible que vous ayez des intellectuels de très haut niveau ou des hommes politiques qui aspirent demain à la magistrature suprême se comportent de la sorte et que personne ne dénonce. C'est ça qui est terrible. En fait, lorsqu'un musulman est attaqué, il n'y a qu'un musulman qui va le défendre ou qui va dénoncer un propos. Quand moi je m'attaque à Christian Estrosi qui dit quelque chose d'ignoble,
le maire de Nice
qui pense que les femmes palestiniennes ont dans leurs bras, soi-disant pleurant, c'est-à-dire des larmes de crocodile, en ayant des bébés plastiques dans les bras, personne ne réagit. Il n'y a pas un homme politique, il n'y a pas un journaliste qui ne serait-ce ému. Allez, je dis pas condamné, dénoncé, en disant mais c'est pas normal, il y a quand même des morts. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est en train de faire pratiquement de la négation de tout ce qui se passe à Gaza, où il y a près de 6000 morts enfants, ce n'est pas vrai. Mais ça, c'est terrible. Il n'y a pas un humaniste en France qui ne soit pas musulman, qui puisse s'émouvoir et dire, mais attendez, on en est où qu'un maire d'une ville aussi importante puisse faire des déclarations et ça passe inaperçu? C'est quand même extrêmement grave et moi, je m'interroge beaucoup sur l'état de notre pays.
Une dernière question, monsieur le recteur, sur les relations judéo-musulmanes. Vous êtes très proche de l'actuel grand rabbin de France, Yaïm Korsiar. On vous a vu à plusieurs reprises donc dans la polémique qu'il y avait eu avec Michel Houellebecq, notamment, et à d'autres occasions. Monsieur le grand rabbin qui a eu, disons, un certain nombre de positions assez surprenantes et plutôt hostiles envers le Coran. En 2018, par exemple, Yaïm Korsiar signait un manifeste contre l'antisémitisme qui demandait, je cite, que les versets du Coran appelant au meurtre et au châtiment des juifs, des chrétiens et des incroyants soient frappés d'obsolescence par les autorités théologiques. Fin de citation. Alors, pour précision, il n'y a pas de verset hein, qui appelle au meurtre, puisque un certain nombre de théologiens musulmans avaient corrigé ces erreurs d'évaluation. En 2019, à un événement interreligieux organisé par la Ligue islamique mondiale, Yaïm Korsiar, en parlant toujours du Coran, avait eu cette autre déclaration, je cite, comment vivre avec les autres sincèrement lorsqu'on révère un texte qui parfois donne le sentiment de ne pas donner la même dignité aux uns et aux autres. Fin de citation. C'est la première fois qu'on entend un grand rabbin de France critiquer un livre saint d'une autre religion. Est-ce que vous connaissiez ces prises de position du grand rabbin? Et dans le fond, qu'est-ce qu'elles vous inspirent? Est-ce que vous en avez discuté avec lui, par exemple?
Non, je n'avais pas eu connaissance de ces déclarations. Et en même temps, je ne suis pas comptable de ces déclarations. Parce que votre question, j'ai des relations étroites avec lui. Je suis recteur de la Grande Mosquée de Paris, il est grand rabbin de France. Vous dire que je ne lui parle pas, ça serait faux. Avoir une proximité, c'est aussi faux. Il représente la communauté juive en France et je ne représente pas la communauté musulmane. Je suis recteur de la Mosquée de Paris, point à la ligne. J'ai des relations avec lui comme j'ai des relations avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques, le président du protestantisme français, de l'Union des bouddhistes de France. Il s'avère qu'effectivement, c'est un homme qui monte souvent au créneau parce que il y a des questions pour lui qui concernent la lutte contre l'antisémitisme. Je n'ai pas envie de parce que la question elle est un peu biaisée, mais il a fait des déclarations en faveur de l'islam aussi. Faut pas. Également, si on veut être objectif, il a quand même dit foutez la paix aux musulmans parce que si au niveau du sacrifice du mouton, il a dit quand vous entendez un porc en train d'être égorgé, c'est terrible puisqu'il y a un son humain qui sort de, de la bouche du porc, et que les musulmans, c'est leur sacrifice, c'est leur rite, il faut leur foutre la paix. Mais encore une fois, moi, je ne veux défendre personne. C'est un interlocuteur avec qui je travaille. J'essaie d'avoir de bons rapports avec lui parce que, effectivement, aujourd'hui, on sent qu'il y a des crispations entre les deux communautés et j'essaie de faire en sorte pour qu'il y ait un véritable apaisement. Encore une fois, je ne suis pas le seul responsable musulman. Il y a d'autres responsables musulmans qui ont une relation beaucoup plus étroite que moi avec le grand rabbin.
Très bien. Alors, Shamsine Hafiz, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, hein, vous le disiez vous-même, sur X notamment, donc l'ancien Twitter. Vous êtes beaucoup investi contre l'islamophobie en France. Vous avez dénoncé les ratonnades, injures et agressions racistes subies par des musulmans et quelques mosquées dans certaines villes de France. Vous avez également reçu le président de l'ARCOM récemment pour lui exprimer votre inquiétude sur cette islamophobie médiatique dont plusieurs chaînes d'infos en continu se sont faites la spécialité. Quel bilan tirez-vous de cet engagement personnel? Quel résultat attendez-vous ou espérez-vous?
Alors écoutez, en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, il est de mon devoir de défendre la dignité des musulmans en France. C'est dans les statuts de la Société des Abou et du sein de l'Islam. Le premier recteur l'avait fait et je continue dans cette ligne. Donc je n'ai aucune espèce de, je dirais, de compliment à me faire sur ce travail. C'est mon devoir en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris. Je le fais parce que en même temps, comme je le disais précédemment, personne aujourd'hui ne défend la communauté musulmane à part les musulmans eux-mêmes. Je trouve ça inquiétant. Et
C'est le signe de quoi, selon vous? Qu'est-ce que ça dit?
ça dit, à mon avis, soit une forme d'indifférence, soit qu'on acquiesce. Le fameux adage qui ne dit mot consent. Je pense qu'il faut véritablement que toutes les autorités de ce pays et les forces vives de ce pays, donc les organisations antiracistes, etc., prennent conscience que c'est un danger de s'attaquer à une communauté quelle qu'elle soit. La communauté musulmane, c'est pas parce qu'elle s'exprime pas, n'est pas en train de souffrir. Moi, je suis marqué par la souffrance de cette communauté. Moi, je fréquente les fidèles de la Grande Mosquée de Paris, quand ils sortent à la fin de la prière du vendredi, je sens un vrai malaise, je sens une très grande tristesse parce qu'on les accable de tout et de rien. Et c'est ça qui aujourd'hui doit être mon combat. Donc je le fais, effectivement je suis sur les réseaux sociaux, quand il a fallu aller en justice, je l'ai fait, je le ferai. Là actuellement, il y a un pool d'avocats qui travaille sur les éventuels poursuites que nous allons faire contre ceux qui ont fait des déclarations depuis le 7 octobre et avant, mais je ne m'arrêterai pas. C'est un combat de tous les jours que la Grande Mosquée de Paris mènera parce que je suis musulman, je suis avocat, je suis très sensible à cette question et comme je le disais, on ne peut pas aujourd'hui en France s'attaquer à quelqu'un pour sa religion, pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, etc. Et considérer qu'il y a un deux poids et deux mesures, je veux essayer de démontrer que ça n'existe pas, ce deux poids et deux mesures. Et c'est pour ça qu'à chaque fois j'ai saisi les tribunaux, je connais la complexité des procédures devant les tribunaux, nous n'avons pas eu beaucoup de chance. Lorsque nous avons assigné à l'époque Charlie Hebdo, lorsque nous avions assigné Michel Houellebecq, mais c'est parce que le droit ne permettait pas à ce que nous puissions obtenir gain de cause. Mais j'invite tous les musulmans aujourd'hui à saisir les tribunaux lorsque cela est nécessaire, parce que je pense que nous avons une justice impartiale, nous sommes dans un état de droit, et si nous ne faisons pas jouer, je dirais, cet état de droit, qu'est-ce qui nous reste? Et donc, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Ne pas se contenter de dire oui, mais la justice, etc. Non, la justice, il faut qu'elle soit saisie. Et c'est un travail permanent que nous devons faire. Et moi, en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, j'assume toutes mes responsabilités. J'irai jusqu'au bout. Je ne laisserai personne s'attaquer à la communauté musulmane. C'est indigne d'un pays qui se dit État de droit, pays des droits de l'homme. Nous sommes la patrie des droits de l'homme. Ben, c'est aujourd'hui que nous devons le démontrer. Parce qu'il y a une communauté qui est silencieuse, encore une fois, je le dis, qui ne veut pas réagir aux provocations, qui est véritablement silencieuse. Hein. Moi, je suis étonné. J'étais à Marseille récemment, Marseille, où il y a une très grande communauté musulmane. Il n'y a pas eu un seul juif qui a été attaqué. C'est donc révélateur, quand on le veut, d'une situation. C'est tellement facile de parler d'antisémitisme musulman. Moi, j'aimerais bien qu'on me le montre, cet antisémitisme musulman. Je ne nie en rien l'explosion des actes antisémites, mais moi, je voudrais savoir où est l'acte antisémite commis par un musulman, pour qu'on puisse éventuellement essayer de comprendre pourquoi et essayer de corriger le tir, puisque aujourd'hui, c'est tellement facile que quelqu'un qui est maghrébin ou africain, qui est peut-être de culture arabo-musulmane, et parce qu'il va s'attaquer à un juif, ah, c'est un acte antisémite, c'est le musulman. Et bien évidemment, tout à l'heure, ce que vous disiez sur le Coran, moi j'invite tous les grands théologiens d'autres religions de venir faire ce travail avec nous pour aller chercher les éventuels appels au meurtre de juifs, etc. On a monté des dossiers. Quand vous avez des Zemmour qui sont complètement incultes dans ce domaine et qui viennent, je dirais, éructer leur soi-disant connaissance du Coran parce qu'ils l'ont lu très vite et ils ont tiré par-ci, par-là, sans tenir compte du contexte, sans tenir compte, je dirais même de la traduction.
Qui invente
Et qui inventent purement et
un verset du
simplement
Coran.
des versets coraniques et qui disent que voilà, c'est une religion qui est antisémite, c'est une religion violente, etc., etc. Jusqu'à présent, là également, personne ne le condamne, Monsieur Zemmour. Il faut aller devant les tribunaux pour qu'il soit condamné. Ben, j'invite les musulmans, lorsqu'ils se sentent lésés dans leurs droits, d'aller devant les tribunaux.
Quel commentaire vous inspire, monsieur le recteur, la coupure des subventions d'État attribuées au lycée privé Averroès, qui le condamne très probablement à une fermeture, alors qu'il représentait le plus souvent un modèle d'école privée musulmane, école privée musulmane qui se compte sur les doigts d'une seule main, surtout celle qui bénéficiait de subventions d'État. Cette fermeture n'est-elle pas le plus mauvais signal envoyé à la communauté musulmane française aujourd'hui?
Alors, je ne connais pas le fond du dossier. Il semblerait qu'il y ait un rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes. Mais moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a un adage qui a été peut-être déclaré par Victor Hugo, lorsqu'on ouvre une école, on ferme une prison. Moi, je ferais l'inverse. Si on ferme une école, est-ce qu'on ouvre une prison à côté? C'est extrêmement grave aujourd'hui de procéder de la sorte. Parce qu'effectivement, ça donne un signal extrêmement négatif aux musulmans de France qui vivent très mal la situation actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 10 décembre 2023, alors est-ce que c'est un concours de circonstances? Est-ce que c'est une question d'agenda? Mais moi, j'aurais souhaité que cette décision qui a été prise, qu'on puisse véritablement la connaître publiquement, c'est-à-dire connaître les motivations exactes. Quand on me dit que c'est la Chambre régionale de la Cour des comptes, personnellement, ça ne me suffit pas. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé, pourquoi aujourd'hui, alors que c'était pratiquement une fierté comme établissement qui était dans l'élite des établissements français et qu'il dégringole de la sorte. Qu'est-ce qui a motivé cela? Moi, j'aimerais le comprendre. À ce jour, je n'ai pas les explications. Je dois recevoir la semaine prochaine les responsables du lycée Averroès qui ont demandé à me voir. Je vais les recevoir, je vais discuter avec eux. J'ai appris qu'ils devaient saisir les juridictions administratives. Bah, tant mieux. Et nous allons voir. Il faut également que nous-mêmes, nous n'allions pas immédiatement à faire des commentaires sans connaître réellement la situation. Je veux comprendre, je veux savoir ce qui s'est passé au lycée Averroès, et si vraiment la motivation, soit elle n'est pas, je dirais, fondée, ben il faut aller devant les juridictions, il faut se battre pour cela, parce que oui, moi je considère que l'agenda vraiment n'est pas approprié à ce genre d'affaires, parce que effectivement, moi j'ai été extrêmement étonné par le fait que ça tombe maintenant. Alors, est-ce que c'est un hasard des agendas? Peut-être, mais en tout état de cause, je regarderai ça de près.
Autre polémique, monsieur le recteur, la célébration de la fête Hanouka à l'Élysée, de droite, à droite comme à gauche, de tous bords, confessionnels confondus, une levée de bouclier sur la laïcité n'aurait pas été respectée. Beaucoup ont parlé d'une laïcité à géométrie variable également, une laïcité qui serait dure avec, avec le culte musulman et qui le serait moins avec d'autres confessions. Quel regard vous portez sur cette polémique? Est-ce que pour vous, la laïcité est encore une réalité authentique en France? Est-ce qu'elle est fragilisée?
Alors, je répondrai un peu longuement parce qu'il y a plusieurs questions dans votre question. Moi, j'ai été là-bas à cette célébration. Il n'y avait pas, comment dire, d'abord, moi, j'ai été invité parce qu'on devait remettre un prix au président de la République, qui est un prix, effectivement, des grands rabbins d'Europe. Mais, vous savez, le président de la République est venu à la mosquée de Paris. Il a célébré le 100e anniversaire de la pose de la première pierre de la Grande Mosquée de Paris. Il y a une plaque qui a été inaugurée ici, dans les jardins de la Grande Mosquée de Paris, par le président Emmanuel Macron. Depuis que le ministre de l'Intérieur, c'est Gérald Darmanin, et depuis que je suis recteur, il est venu 3 fois à un iftar organisé par la Grande Mosquée de Paris et invitant tous les ambassadeurs des pays musulmans accrédités en France. Je dirais que la laïcité, c'est pas la négation des religions, c'est évident. Alors, est-ce que moi j'irai faire un iftar à l'Élysée? Non, parce que je n'ai pas besoin de cela.
Une maladresse pour vous?
Je dirais
Une faute
que
politique?
non. Je dirais que ce qui s'est passé, parce que encore une fois, on est dans un contexte précis, c'est la remise d'un prix. Moi, j'ai été invité comme le président de la Fédération protestante de France, comme le président de l'Union des bouddhistes de France. Nous étions les 3 représentants, entre guillemets, des autres cultes. Il n'y avait pas le catholique ni l'orthodoxe, mais nous étions présents à une remise d'un prix. Mais moi, j'aurais voulu que vous écoutiez le discours du président de la République, qui n'a pas été diffusé, parce que il l'a fait oralement. Et quand moi je fais un tweet en parlant d'un discours de vérité, le président de la République, au moment où lui remet cette distinction, va faire un discours dans lequel il dénonce le fait qu'on ne puisse pas aujourd'hui mettre à égalité les victimes palestiniennes et les autres. Lorsqu'il parle de la coexistence de 2 États au Proche-Orient, il l'a dit, il a insisté, il a martelé. Il a insisté sur le fait qu'il faut absolument un cessez-le-feu. Ça, personne ne l'a repris. Alors moi, je vous invite à vous d'aller réfléchir à cela. C'est important. Et de ne pas faire je dirais, cet amalgame. Ce qui s'est passé, allez, c'est un fait mineur que le grand rabbin ait allumé une bougie de Hanouka. Tant mieux pour lui et tant mieux pour eux. C'est ça qui va remettre en cause la laïcité dans notre pays. Vous savez, à l'extérieur, il y a des crèches, il y a des manifestations de la célébration de Hanouka ailleurs. Moi, je ne crois pas que c'est ça notre combat. Je ne crois pas. Ce n'est pas important. Et encore une fois, moi, je vous dirais, si demain on m'invite à un iftar ou d'organiser un iftar en tant que recteur à l'Élysée, je ne le ferai pas. Je suis tout à fait d'accord. Mais après, c'est pas parce que moi, je m'interdis de le faire que je vais interdire aux autres de le faire. Chacun, ici en France, a sa manière d'examiner la laïcité. Vous savez, je vais vous donner un exemple. J'étais invité dans un lieu républicain à un déjeuner. Et la personnalité qui m'avait invité à déjeuner, il y avait des juifs, des catholiques, etc., elle est venue vers moi en me disant, Monsieur le recteur, nous vous avons préparé un plat halal. Je lui dis, Madame, le plat halal, pour moi, n'existe pas. Je mange ce qu'il y a à manger. Bien évidemment que je ne vais pas manger ce qui est interdit dans ma religion. J'ai mangé de la salade. Je ne veux pas aujourd'hui donner, je dirais, une visibilité à ce niveau-là. La visibilité musulmane, elle est ailleurs. Moi, je veux que les enfants musulmans puissent aller à l'école. Je veux que les personnes de confession musulmane ne soient pas discriminées lorsqu'ils cherchent du travail. C'est pas parce que tu t'appelles Mohamed que tu n'auras pas ton travail ou parce que tu habites dans le 94. Moi, c'est ça mon combat. La visibilité des musulmans, je veux l'avoir à l'université. Je veux l'avoir dans les fonctions importantes de l'État français, que ce soit dans la haute administration, dans la magistrature. Demain, on me dirait qu'un jeune Mohamed vient d'avoir son diplôme de droit et ne peut pas accéder à la magistrature. Je monterai au créneau. Mais c'est pas la nourriture. Vous savez très bien, il faut quand même, là aussi, revenir aux fondamentaux de notre religion. Le halal existe, bien évidemment. Je n'ai pas à manger le porc, je n'ai pas à manger un certain nombre d'aliments, point à la ligne. Je ne vais pas aller à un déjeuner ou un dîner républicain pour imposer mon repas. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui veulent avoir cette visibilité. Moi, je préfère rester dans la discrétion à ce niveau-là. C'est pour cela que je n'accepterai pas d'aller assister à un iftar à l'Élysée. Mais que le président de la République vienne à un iftar à la Grande Mosquée de Paris, je le ferai. Le ministre de l'Intérieur est venu le 11 novembre ici à la Mosquée de Paris, la veille de la marche. Est-ce que vous avez remarqué cela? Non. Il faut remarquer ces choses-là. Le ministre de l'Intérieur est venu à la Grande Mosquée de Paris le samedi à la veille de la marche du 12 novembre. Il est venu ici, il a déposé une gerbe de fleurs, parce que n'oublions pas que nous avons une légitimité à travers le sang versé par les musulmans pendant la Première Guerre mondiale. Ça, c'est important. Je veux que nos enfants s'en rappellent. Je veux qu'ils aient une forme de fierté et d'appartenance à ce pays, parce que leurs aïeux se sont sacrifiés pour ce pays. Les musulmans ont toujours été au rendez-vous lorsque la France s'est trouvée face à des situations compliquées. Je vous rappelle simplement le Covid. Il est déclaré, rappelé, moi, en tant que recteur, j'ai été dans une ville de France où le préfet de région m'a reçu en me disant qu'il venait de quitter le ministère de l'Intérieur où le ministre avait réuni tous les préfets. À l'unanimité, tous les préfets de France avaient dit que la communauté qui avait été vraiment extrêmement active pendant la période du Covid, c'était la communauté musulmane. C'est pour moi une source de fierté. Le reste, c'est des banalités.
Pour conclure cet entretien, une petite touche positive tout de même. Après 3 ans de formation à l'Institut Al-Razali, la première promotion d'imam et d'aumônier du sud de la France a été reçue par vous-même à la mosquée Bilal à Marseille. Au total, 26 imams et aumôniers. Que représente pour vous cette promotion? Est-ce que c'est un aboutissement ou un simple point de départ?
C'est les deux à la fois. C'est un aboutissement parce que c'est la première promotion. Alors, pas celle de Marseille, hein. Il y en a eu dans 4 annexes que j'ai mis en place depuis mon arrivée à la Grande Mosquée de Paris. C'est la première promotion qui est faite avec un programme que j'ai élaboré en 2020. Donc, je suis très fier aujourd'hui que nous ayons 58 imams et aumôniers qui ont leur diplôme. C'est important pour nous parce que c'est l'encadrement. C'est le personnel religieux que toute la communauté musulmane et les autres ont besoin de sachants qui viennent pour effectivement parler de notre religion. Et donc, c'est le début parce que 58, ce n'est pas suffisant. Nous avons 2600 lieux de culte. Nous avons des imams autoproclamés. Nous avons des imams qui n'ont pas la formation et je ne leur jette pas la pierre. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait une formation académique. C'est important pour, je dirais, l'avenir de notre religion en Occident de manière générale et en France en particulier. Il faut véritablement travailler sur cette formation pour que nous puissions avoir des encadrements qui puissent suivre aujourd'hui, à la fois sur le plan, je dirais, du travail que fait l'imam, mais les aumôniers. Moi, je vois aujourd'hui et je constate avec beaucoup de regret que dans les hôpitaux, au moment où la question de l'euthanasie, du suicide assisté, c'est-à-dire des questions extrêmement complexes qui sont posées à la société. Nous, en tant que musulmans, comment nous devons réagir aux dons d'organes? Donc, j'ai insisté auprès des autorités, que ce soit le ministère de la Santé, que ce soit le président de la République, pour leur dire qu'il fallait avoir des aumôniers musulmans dans les hôpitaux, dans les prisons. C'est capital pour notre communauté. Et cela doit être entendu parce que le bénévolat a ses limites. Il faut absolument aujourd'hui que ces aumôniers, la fonction d'aumônier, elle doit être valorisée. Il faut véritablement, moi je l'ai dit sans forfanterie, il faut vraiment un plan Marshall. Aujourd'hui, il faut un budget. Parce que c'est là où la laïcité trouve, je dirais, ses frontières, puisque l'État s'implique dans l'aumônerie. Que ce soit l'aumônerie hospitalière, des prisons et des armées, où il y a des rémunérations pour certains postes budgétaires, ben il faut développer et augmenter ces budgets pour permettre à des personnes qui ont envie véritablement d'accompagner les autres, et ben d'avoir un diplôme, d'avoir un salaire, d'avoir vraiment un plan de carrière qui permet à ces gens qui sont pleins de dévouement, mais qui aujourd'hui, vous savez, moi j'ai des aumôniers des prisons qui viennent me voir et qui me disent chaque jour de ma poche, je paye 200 km d'essence. Parce que les maisons d'arrêt, les prisons, pour y aller, c'est quand même des distances importantes. Et quand vous lui dites, qu'est-ce que tu touches? Peut-être des forfaits de 400 euros par mois. C'est pas normal. Il faut absolument que, si on veut encadrer notre communauté, c'est à travers cela. On sait très bien aujourd'hui que les prisons, on dit à 70-80% de musulmans, ben c'est à nous aujourd'hui de faire ce travail et d'aller les assister, les aider, parce que c'est des moments de la vie où ils ont trébuché pour des raisons diverses et variées. Vous savez, les prisons, il n'y a pas que des criminels, il y a des gens qui ont commis des crimes ou des délits, soit par nécessité, soit de manière peut-être involontaire ou qu'ils regrettent, ben il faut les accompagner. Il faut qu'on leur permette cette possibilité de revenir au sein de la société.
Ça va être la fin des imams détachés, monsieur le recteur, dans quelques semaines. Est-ce que les mosquées sont prêtes aujourd'hui pour assumer ça à l'approche du Ramadan avec le Tarawih?
Alors, le Tarawih, c'est une question un peu particulière parce que depuis des années et des années, nous avons, grâce, je dirais, à la collaboration que nous avons avec le ministère de l'Intérieur, de ramener de l'étranger des imams Tarawih. Moi, je ne vous cache pas que j'ai déposé la semaine dernière la liste des imams du Tarawih, en espérant que nous aurons des réponses pour la délivrance des visas, etc. Donc ça, c'est une question un peu à part. Pour les imams détachés, effectivement, le président de la République a dit 31 décembre 2023, il n'y aura plus d'imams détachés, on est en train de s'organiser. Nous avons 120 imams qui viennent d'Algérie. On a parlé avec le ministère de l'Intérieur. Moi, je suis descendu à Alger, j'ai rencontré les autorités là-bas. On est en train de trouver des solutions. La nouvelle formule d'imam devrait intervenir à partir de début avril 2024. Donc, les imams sont là, mais c'est vrai que, vous savez, il y a 120 imams détachés qui viennent d'Algérie, il y en a 30 qui viennent du Maroc, 150 de Turquie, ça fait à peine 300 imams pour 2600 lieux de culte. Il y aura toujours une nécessité d'avoir des imams en plus. Donc, il faut les former et surtout, il faut qu'il y ait un statut de l'imam. Aujourd'hui, c'est une grande question. Et c'est ça, également, la question de la laïcité, parce que c'est nous qui devons nous organiser. L'État ne peut pas s'organiser pour nous créer un vrai statut de l'imam. Eh bien, c'est à nous de faire ce travail, de faire une sorte de plan de carrière. Et c'est pour ça que moi, j'ai appelé de mes voeux la création du Conseil national des imams pour qu'il fasse son travail. J'espère qu'il le fera un jour.
C'est la fin de cet entretien enregistré ici même à la Grande Mosquée de Paris. Merci Chemsine Hafiz d'avoir répondu à nos questions. Merci également à tous nos éditeurs pour leur fidélité. On se retrouve très bientôt sur Mizen TV.
Merci beaucoup. Merci.